Vous écoutez Radio Campus Lille, il est 18h.
Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle épisode de Heureusement en France. Vous êtes sur Radio Campus 106.6, il est 18h02 et comme tous les dimanches de 18h à 19h, nous nous retrouvons pour parler d'actualité majoritairement geek. Aujourd'hui, pour animer cette émission, nous sommes trois, il y a moi-même François, je suis accompagné de Reynald. Alors, comme d'habitude, Reynal, si je te mets un micro, c'est beaucoup mieux.
Ou pas.
Ou pas, ouais.
Et de Dominique.
Salut à tous.
Et aujourd'hui, ce week-end, nous avons passé la majorité de notre temps dans un salon dont nous avons parlé bien en détail la semaine dernière. Nous étions au Hammer Time. Et en plus de voir de magnifiques figurines, de voir de beaux décors, on a fait de belles rencontres, on a testé des jeux. Mm-hmm. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons décidé d'inviter autour de la table deux membres organisateurs d'un univers qui est aussi en parallèle avec un jeu de plateau qui s'appelle Arakan. J'ai l'honneur d'avoir avec nous Bob, tu es concepteur du jeu et un peu directeur artistique, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Et avec nous Lies, qui est un peu l'homme qui a commencé le projet, auteur, compositeur sur ce projet, le monde d'Arakan.
Exactement, bonsoir à tous.
Et ce qu'on aime bien faire avant de rentrer en détail justement dans cet univers qui est très riche et très fantastique, on en détaillera ça bien en détail, on va vous demander quel est votre parcours un peu de joueur, ou en tout cas votre parcours dans ce monde fantastique. Qu'est-ce qui vous a fait venir dans cet univers et comment en êtes-vous venu à créer ce jeu et cet univers Arakan?
Vas-y, je te donne la parole, yes.
Alors, niveau jeu, fantasy, on va dire que moi, je suis entré dans ce milieu par le biais de la peinture, la figurine. Je suis avant tout collectionneur, moins joueur.
T'avais largement ta place au Hammer Time. Tu sais, tu te sentais en famille, quoi.
Exactement. Donc, du coup, ça aide beaucoup. Et à côté de ça, je travaille la musique depuis tout petit. Et qui dit musique plus figurine égale monde fantastique, création d'univers fantastique, musical. C'est comme ça que c'est arrivé.
Donc moi, j'ai toujours eu un intérêt pour la fantasy et c'était moi via le biais de Magic the Gathering. Donc ça, j'étais collectionneur depuis, on va dire, le début des années 90. Donc Magic, mais aussi Warhammer. Donc Warhammer, c'était pas Warhammer 40 000 pour moi, c'était Warhammer Fantasy.
Donc le jeu de rôle.
Le Warhammer Battle.
Warhammer Battle, ouais.
D'accord. Okay. Ouais. Non, y a pas de souci. Le jeu de figurines et aussi via avec la peinture, parce que j'étais dessinateur depuis toujours, donc c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Puis bon, surtout pour Magic, pour les illustrations, dedans je me perdais, je trouvais ça vraiment très très sympathique, quoi.
Et du coup, l'envie de créer un univers comme ça, complet, fantastique, c'est venu comment ?
Donc c'est avant tout un univers musical, c'est arrivé par la musique, j'ai commencé à bosser, à y réfléchir sérieusement en 2010, parce que c'est effectivement une façon de recentrer un petit peu tout ça. Comment je pouvais faire le lien entre mon goût pour la fantasy, mon goût pour la figurine, pour la peinture, pour Warhammer. Je suis un enfant de Games Workshop, c'est clair et net.
Mais tu n'es pas venu avec le pull rouge aujourd'hui.
Non, parce qu'entre-temps, j'ai changé d'écurie. Et donc, oui, voilà, un projet comme ça, c'est souvent un croisement de plusieurs influences, et ça se fait aussi avec des gens qui ont aussi des influences à apporter et pour pouvoir se lancer un défi, parce que c'est malgré tout un gros défi de pouvoir réunir tout ça.
Oui, parce que du coup, moi et Elias, on se connaît depuis 2011. Donc moi, je suis arrivé très tôt un peu dans l'aventure. Donc au début, moi, j'intervenais, c'était essentiellement sur le graphisme. Donc je faisais un peu un travail de direction artistique et beaucoup sur le motion design, tout ce qui est un petit peu animation. Donc c'est comme ça qu'on a commencé. Puis de fil en aiguille, le projet a monté en pression. Puis c'est à partir de 2015, si je me trompe pas, où on a commencé à vraiment mettre un coup de collier. et les choses ont commencé à se concrétiser. Et donc, du coup, fin 2017, c'est là où l'idée du jeu est arrivée, et là, du coup, les choses ont encore pris une plus grosse importance.
Donc, tu disais, ça a commencé par des musiques, donc tu avais déjà créé quelques morceaux, et tu t'es dit, à partir de là, je vais faire naître un...
C'est exactement ça. Ça peut paraître assez bizarre, mais tout est vraiment né de thèmes musicaux. Tout l'univers s'est créé autour de ça. On a créé des gimmicks, des mélodies qui sonnaient épiques, qui sonnaient fantasy. Et là-dessus, j'ai commencé à broder du texte. J'ai commencé à écrire, parce que je suis pas écrivain, j'ai aucune prétention d'écrivain. Mais ça s'est fait de fil en aiguille. Et puis, ça a commencé à sonner, ça ressemble à quelque chose. Et puis, tu croises des gens comme Bob, tu croises des gens comme Mike, qui à un moment les chemins se rencontrent et puis ça te donne de la force, t'y crois, tout le monde y croit, et parce que voilà, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est petit à petit, tu gagnes, tu montes des étapes, comme tu dis, ça monte en pression, parce que il y a un groupe qui fait que il se passe quelque chose, quoi.
Il y a une alchimie qui fait que les gens vont apporter des idées, et donc à partir de ces musiques, après on est arrivé sur des audiobooks. Alors attention, on va préciser, on n'est pas sur un audiobook habituel où on va avoir un narrateur qui va parler pendant des heures et raconter une histoire. Ici, on va être plongé dans une aventure, un peu comme si on allait au cinéma, mais quelqu'un avait décidé d'arrêter la lampe et qu'on ne voyait rien.
Couper les lumières, etc.
Ouais. C'est exactement ça. D'ailleurs, on appelle nous ça un audiofilm. C'est beaucoup plus un film qu'un audiobook, pour la simple raison que tu viens de le mentionner à juste titre. On n'a pas un narrateur qui nous lit un livre comme un audiobook classique. C'est justement le pari inverse. C'est on a le narrateur qui est là que pour nous plonger dans l'ambiance. Mais après, toute l'histoire est jouée par les héros eux-mêmes. On a des dialogues de comédiens, on a du sound design, on a de la musique qui balance toute l'intrigue du début jusqu'à la fin. L'idée étant qu'il n'y ait pas de temps mort.
D'accord. Et là, on a déjà des audiobooks qui ont été préparés ou c'est en cours de préparation ?
Alors, on sort d'une campagne de financement qui a été un succès puisqu'on a financé à 200% février.
Une campagne Ulule.
Voilà, qui avait pour but de financer justement l'audiofilm. On est en cours de livraison des backers pour qui on garde la primeur quelques semaines, quelques mois. Et à la rentrée prochaine, on va attaquer les stores, Apple Store, Amazon. Donc ce sera disponible grand public dans quelques mois.
Alors, ce qui est intéressant, et c'est pour ça qu'on est ravis d'être avec vous, c'est parce qu'on sent que c'est un projet qui est en train justement de prendre vie et de prendre de l'ampleur, puisqu'on imagine très bien, vu qu'on a déjà le jeu de plateau qui est en préparation et qui est en train d'être testé, on est quasiment sur des versions un peu finales là, que c'est un univers qui va nous permettre d'avoir beaucoup d'autres choses. On a l'impression que là, on est vraiment au début avec ces audiobooks. Je pense que votre groupe est l'alchimie qui en... Vous n'avez pas fini d'apporter les projets, j'ai l'impression.
Oui, absolument. C'est Arakan, c'est un creuset fertile. Donc, on a plusieurs projets d'Arakan qui sont dans le pipe. On pense à des déclinaisons de déjà ce qui existe, c'est-à-dire en termes de jeu. Là, pour l'instant, le jeu de plateau, le jeu de cartes, c'est en duel. Donc, on va développer toute la partie qui va être scénario. Donc, on est aussi à l'étude d'un véritable jeu de plateau. Donc là, qui sera pas joué avec uniquement des cartes et des pions et un plateau, donc je l'aurai peut-être avec des figurines et tout ça, qui sera axé à scénario plus. En termes d'histoire et de narration, en fait, la saga, elle continue. C'est que là, cette année, on s'occupe, si je me trompe pas, des trois premiers volets.
C'est
et
ça.
Puis ensuite, il y aura d'autres volets qui vont arriver.
Alors, je vous propose, pour bien se mettre dans cet univers d'Arakan, d'écouter juste l'introduction qui présente un peu l'univers et qui va vous permettre aussi d'écouter la musique. On sent déjà l'univers fantastique qui arrive lorsqu'on écoute ça.
Cela faisait maintenant plusieurs heures qu'il pataugeait dans ses lieux, trébuchant à chaque pas sur des racines noyées dans l'eau saumâtre. Ils n'avaient pas la moindre idée d'où ils allaient. Elias était à bout de nerfs.
J'en peux plus. On s'enfonce dans la boue. On est trempé jusqu'aux os. Faisons demi-tour et rentrons. J'aime pas cet endroit.
Hé, commence par parler moins fort. Tu vas nous attirer des ennuis.
Des ennuis? Moi? Je te signale que c'est toi qui m'as traîné jusqu'ici.
On n'a plus le choix. Il faut continuer.
Mais pour aller où?
Je ne quitterai pas cette forêt sans avoir trouvé Dame Trude, la sorcière.
C'est des histoires, Tim. Elles n'existent pas. Mais tous ces bruits, ça me fait peur. S'il te plaît, rentrons.
Hors de question. On est allé trop loin pour reculer. Et puis dans ce noir, on ne retrouvera pas notre chemin.
Cela faisait un an jour pour jour que Tim avait commencé les préparatifs de son voyage. Un an exactement qu'il avait...
Alors voilà, un premier extrait. Alors c'est vrai.
J'ai des frissons.
Nous, on avait eu des expériences beaucoup d'audiobooks avec notamment le Donjon de Nahulbeuk.
Ah,
alors on est sur un format qui est beaucoup différent, mais on ressent cette petite passion de vouloir écouter tout ça. Ouais. Ça va être fort sympathique. Alors vu que là on parle de l'univers, qu'est-ce que le monde d'Arakan?
Alors le monde d'Arakan, c'est donc un monde fantasy, comme on le dit depuis tout à l'heure, sans aucun doute, il y a pas l'ombre d'un doute là-dessus. Pour vous recentrer un peu l'histoire, tout part d'un arbre de vie qui est maître créateur du monde d'Arakan, qui tombe malade mystérieusement. Et c'est à partir de là que se déroule l'intrigue. On apprend très vite que certaines légendes sont cachées, que les choses ont évolué, que la place des hommes dans ce monde empiète un petit peu trop sur l'espace vital des autres. Donc c'est à la fois une histoire très simple parce que j'ai voulu pouvoir parler à tout le monde. Il n'était pas question de d'histoire trop politique ou de choses trop complexes comme c'est souvent le cas en fantasy au final, qui s'adresse beaucoup trop aux adultes.
On nous présente des dizaines ou des centaines de personnages, et puis si on pose le bouquin et qu'on le reprend trois mois plus tard, j'aurais complètement oublié qui était qui. Il faut tout repartir du début.
C'est ça. Donc là, le challenge, il a été un petit peu plus dur dans le sens où j'ai essayé depuis le début de créer une double lecture, faire une trame très simple avec Tim et Elias, les deux héros, qui se retrouvent dans des histoires un petit peu compliquées à chercher une sorcière. Ils sont tombé malheureusement ou heureusement sur ce qu'on appelle le livre interdit qui jalonne toute l'histoire du début jusqu'à la fin, et on va suivre leurs péripéties, leurs histoires. Est-ce que ce sont de héros classiques? Est-ce qu'ils se cachent quelque chose derrière? Et pour les plus grands, pour les adultes et pour ceux qui sont vraiment fans de fantasy, j'ai essayé de disséminer tout au long de l'histoire des vrais codes un petit peu plus durs, un petit peu plus complexes, avec des intrigues pas cachées mais qui sont pas toujours au cœur du truc, pour que les plus petits puissent quand même en profiter et que les grands ne s'ennuient pas.
D'accord, donc un univers fantastique, donc qui va, on imagine des créatures un peu exceptionnelles. J'ai vu qu'il y avait des griffons là, pour je m'avance pas trop.
Il y a de très beaux griffons.
Très beau.
Je pense que Bob peut confirmer.
Le griffon est de grande qualité.
On essaye d'avoir, alors pareil, c'est le bestiaire. On essaye d'avoir un bestiaire à la fois original, mais aussi récupérer quelques codes bien connus parce que en fantasy il y a des codes et ça fait partie du jeu, et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de littérature fantasy qui sortent et qui marchent pas, parce que il y a beaucoup de codes qui sont pas respectés, faut les connaître.
Les nains aiment les elfes, hein, ton voilà. Livre ne marchera pas.
Le rouge ça fait du dégât. Le vert c'est gentil,
c'est toute la subtilité.
Le noir c'est méchant,
c'est toute la subtilité de ce genre d'exercice, c'est d'en donner un petit peu. Ouais. Mais de surprendre
aussi,
un petit peu.
Un enfant de Games Workshop, le rouge va plus vite normalement. C'est vrai. Ouais.
Mais voilà, mais c'est exactement pareil pour la musique. Quand on fait de la musique comme ça épique, les gens attendent quelque chose de la musique épique. Ils veulent que ça soit comme ci, comme ça. Et si tu veux faire quelque chose de trop différent, ça marche pas. Donc c'est toujours l'équilibre entre donner aux gens ce qu'ils attendent et arriver à les surprendre au moment où ils se disent ouais, c'est bon, c'est connu, on sait ce que c'est. Voilà. C'est tout l'enjeu. Donc c'est passionnant. Donc ça fait des années qu'on est dessus.
je me doute bien. Et on n'a pas fini d'en entendre parler, puisque cette histoire va se continuer.
Tu parlais d'âge, mais justement, à quel est-ce que vous avez visé dès le début un public particulier, que ce soit les plus petits, enfin, bien sûr pas d'âge, c'est même plus bas que de 7 à 77 ans, quoi, mais à qui on pourrait faire écouter le podcast, puisque sur le site internet, donc on citera tout à l'heure, on peut écouter des extraits du podcast, comme celui qu'on a écouté, à qui ça peut s'adresser?
Je pense que ça s'adresse à tout vrai fan de fantasy.
Futur fan de fantasy.
Ou futur fan de fantasy. Moi, j'y vois pas de limite d'âge parce que moi, je suis sensible à un spectre très large. Donc peut-être. Et puis je l'ai écrit. Moi, je te dirais qu'un bon produit trouve toujours sa cible. Ouais. Mais temps, Bob, de... Bob pourrait peut-être.
Sans spoiler, est-ce qu'à un moment il y a un gros monstre terrifiant qui pousse un hurlement? On va pas faire écouter ça.
Oui.
Un enfant trop petit.
Quand c'est vraiment construit comme une saga, format série, on prend le temps. On prend le temps que les choses arrivent. On prend le temps de faire évoluer les personnages et ça monte malheureusement aussi en violence parce que c'est comme ça qu'on l'a construit.
Ça me fait penser à une série qui vient de se terminer, je sais pas pourquoi, et qui a laissé plein de millions de fans à travers le monde un peu sur leur fin. Plongé dans un nouvel univers.
Qui était aussi faite pour les enfants.
Hein. Oui, exactement.
En même temps, c'est un public du moment que comme c'est fantastique, ça tape sur l'imagination et c'est géré et alimenté par l'imagination de l'auditeur, vu que c'est des audiobooks pour l'instant. Si quelqu'un a un peu d'imagination, ça sera un très bon public, quel que soit son âge, son niveau de société.
C'est ce que nous pensons.
Ouais. En fait, chacun va créer ses images. Il y en a qui vont créer des trucs interdits au moins de 18 ans direct.
Pourquoi tu me regardes en disant ça?
Aucune idée.
mais après, c'est vrai qu'il y en a qui vont écouter une minute, ils vont se faire un péplum en attendant le deuxième. C'est pour tout le monde.
Alors, derrière ce nom Arakan, parce que Arakan, il y a quand même des petites sonorités qui nous font penser à d'autres. Il n'y a pas de relation par rapport au monde d'Arakam ou...
Arakam, oh là là.
D'Arakam.
Arakam, c'était la société qui détient le figurine Confrontation.
Société de figurines.
Et j'ai vu qu'il y avait aussi Cthulhu qui avait le.
Arakam, oui. Arakam. Oui, ça fait partie des noms qui sonnent. Tout simplement. Ouais.
Alors, Arakan, c'est Arakhan. Oui, donc, vous allez pouvoir aller sur le site web pour avoir plus d'infos. Il y a le Facebook aussi. Mm-hmm. Et la chaîne YouTube qui a beaucoup de contenu et vachement intéressant. On peut voir notamment ta station de musique qui est complètement impressionnante. On comprend comment tu arrives à gérer des orchestres là-dedans. C'est rempli de partout. Bah,
c'est un Boeing.
C'est des années d'investissement, tout ça.
Ouais. C'est beaucoup, beaucoup d'investissement, beaucoup de temps pour arriver à faire sonner ça comme ça. Il faut mouiller le maillot.
Et quel logiciel pour les connaisseurs?
Des conseils pour ceux qui auraient envie de se lancer aussi.
Alors, désintéressés. S'il y a vraiment des intéressés, il y a un mot-clé pour faire ce genre de musique. Ça s'appelle Vienna Ensemble. C'est la marque Vienna Studio qui fait ça. C'est en fait un software qui te permet de gérer des dizaines et des dizaines de gigaoctets de son à travers une interface et qui te permet en fait de mettre tes PC en cascade. Ils sont tous gérés via un câble Ethernet, ce qui fait que tu peux avoir potentiellement des tonnes et des tonnes de sons, ce qui avant n'était pas possible. Donc ça, c'est le logiciel Vienna Ensemble Pro.
Tu as une usine à gaz chez toi.
J'ai une usine à gaz. Oui, il y a trois PC reliés.
Consommation électrique, ça va?
J'essaie de faire attention. Ça coûte cher, mais ça chauffe puisque du coup le studio n'est pas chauffé puisque les ordinateurs se suffisent à eux-mêmes. Non, c'est une grosse installation, c'est beaucoup de travail, mais c'est une époque formidable. Il y a 20 ans, on n'aurait pas pu faire ça. Arakan, il y a 20 ans, n'aurait pas été possible.
Sur des disquettes.
Ça aurait pas sonné pareil. J'aurais été plus proche de Mario que de Game of Thrones.
On aurait de la musique MIDI.
Une heure plus tard, insert disquette 3256. Vivement la fin.
Et mais j'ai commencé sur un Atari. Hein, donc
les vrais musiciens, bien sûr. Est-ce que toi, tu es. Vous êtes tous. On va aussi parler des autres membres de l'équipe. Et est-ce que vous êtes tous maintenant à temps plein sur le projet? Ou est-ce que c'est votre occupation principale, justement?
Alors donc du coup, pour ma part, moi j'interviens en deux temps sur le projet. Donc je suis créateur-concepteur du jeu et aussi j'interviens sur tout ce qui est visuel sur la partie globale, c'est-à-dire sur le jeu et aussi sur la partie histoire. Donc actuellement, je suis directeur artistique pour une boîte de motion design qui est ma boîte que j'ai avec mon associé qui bosse aussi sur Arakan. Donc du coup, on jongle entre les deux. Mais de plus en plus, Arakan nous demande beaucoup de temps, ce qui est logique, parce qu'on a envie que le projet réussisse. Donc tout le temps libre qu'on a, on le donne pour Arakan.
J'imagine que ça vous fait aussi pour imaginons que tu veuilles trouver d'autres clients pour ta société de production, ça fait aussi une espèce de vitrine et d'exemple de portfolio.
C'est une superbe vitrine parce que du coup, en 2015, on a bossé sur un teaser full 3D. Et du coup, l'avantage, c'est qu'on n'avait pas de deadline particulière. Donc en fait, j'ai mis à peu près un an et demi à le faire. Donc ça c'est quelque chose que j'aurais pas pu faire pour un client. Quoi. On peut pas faire une anime sur un an et demi pour un client. Donc là, on a pu le faire pour ça. Donc du coup, c'est une superbe vitrine. Et ça n'a absolument que des atouts, oui, clairement.
Et donc, tu t'es occupé aussi de tous des graphismes, du site internet, peut-être, etc. Enfin, tu n'es peut-être pas le seul à travailler sur les visuels.
Et, tout à fait. Alors, donc, les visuels, on a des illustrateurs qui s'en occupent. Moi, je m'occupe de tout ce qui est graphisme. C'est-à-dire qu'après, je les prends et pour, par exemple, sur le site internet, donc, je crée des compositions autour de ça. Pour les pochettes qu'on a sur les livres audio, c'est la même chose. C'est-à-dire que je récupère les illustrations, j'en fais des photomontages, j'en fais quelque chose qui peut ressembler un petit peu à une affiche de cinéma. Donc, je fais ça, je m'occupe de toute la partie animé, donc toutes les animations qu'on a autour de, en termes de communication ou même en termes de narratif, ça c'est moi qui ai réalisé. Et puis aussi je gère la direction artistique bien sûr pour les illustrateurs, c'est-à-dire que c'est moi qui m'occupe de leur dire ben, c'est comme ça que ça doit
pour
être.
Que ça reste cohérent entre tous les éléments du projet.
Et ça c'est quelque chose que je fais donc en binôme avec Lies, donc on est tous les deux, on gère un petit peu ce que les illustrateurs nous produisent, quoi.
Y a-t-il d'autres personnes à bord du navire Arakan?
Oui, tout à fait. Donc, il y a mon associé de meilleur ami de longue date, Mickaël, alias Monsieur Wars, le Wars de Arakan Wars, qui est le nom du jeu, il faut le rappeler. Et donc, lui, il s'occupe, il est concepteur jeu donc avec moi. Donc, c'est nous tous les deux qui avons réalisé, développé le jeu avec l'aide de Lies. Et donc, il s'occupe aussi, il s'est occupé du site internet, il s'occupe beaucoup, il est sur les salons, il a énormément de tâches et de responsabilités aussi sur le projet, quoi. Et donc, je bosse aussi avec lui sur notre boîte de motion design qui s'appelle Inlancy Studio.
À côté de ça, on a monsieur l'archiviste qui était avec nous à Hammertime, vous l'avez vu, donc qui lui nous aide sur tout ce qui est édition, sur tout ce qui est les livres, les livres audio.
Ah oui, parce que vous avez dû apprendre plein de métiers différents.
C'est passionnant et c'est hyper fatigant à la fois. On a 10 000 casquettes. C'est pas toujours facile à gérer, mais c'est le prix à payer pour faire ce qu'on veut. On se forme tout le temps. On est tout le temps en danger.
Ouais, parce que vous êtes, vous avez créé une entreprise pour.
Alors voilà, ouais, là c'est en train de ça bouge encore parce qu'il se passe des choses imprévues. On s'attendait pas à ce que ça aille aussi vite sur certains trucs. Et donc voilà, donc il y a Axel qui s'occupe de ça, monsieur l'archiviste, et puis on a l'éminence grise qui est pour le coup monsieur Cool, qui est mon ancien manager producteur de musique, qui bosse avec nous sur tout ce qui est finance, contrat, développement du future licensing, développement de la marque. Parce qu'on, voilà. Il y a un moment, il a fallu, c'est comme tout, on peut pas rester dans nos chambres et il faut être plusieurs et puis il faut essayer de viser haut et avoir des vraies ambitions.
En parcourant les différents salons à travers la France, les salons de jeux et d'univers fantastique, on croise beaucoup de gens qui ont des projets comme ça. Des fois, ils restent simplement entre amis comme ça. Des fois, ils créent une association pour commencer, etc., sans vouloir en faire leur métier. Mais vous avez franchi le pas. C'est vraiment pour en faire votre métier, pour essayer d'en vivre.
Faut dire qu'on a hypothéqué pas mal de choses pour ça. C'est à la base un projet très, enfin, je parle pour Bob et moi, mais c'est un projet très artistique dans lequel on a vraiment envie de s'épanouir. Et c'est aussi un choix de vie. Qu'est-ce qu'on veut faire de nos vies? Comment on veut se lever le matin et se dire c'est cool ce qu'on fait, ça nous plaît vraiment. Donc il y a un moment, fallait mettre les deux pieds dans le plat, quoi, et foncer. Et puis voilà, moi j'étais très content de ma musique. Non, mais voilà, il y a un moment où tu te dis non, bah, j'ai des vraies ambitions par rapport à ça. Ça peut pas juste traîner la maison de quartier du coin. C'est pas ça qui me rend heureux, quoi. Pour ma part, c'est juste ça, quoi. C'était d'aller le plus loin possible, quoi.
Oui, c'est vrai que le projet a vocation d'être international et de durer dans le temps. Donc ça, c'est vraiment le but qu'on se fixe, quoi. C'est d'en vivre et d'être heureux tous les matins quand on va au bureau, en quelque sorte.
Alors, on vous voit aussi beaucoup vous balader dans tous les salons, puisque sur Facebook, je vois que vous allez faire le tour de France des salons geeks. Et vous, ça vous a permis, je pense, de construire un peu cette base de fans, puisque si on regarde le Ulule, on est à 182% de financement, donc beaucoup de gens qui ont répondu à la demande. Et je vois, on parlait des illustrations de tout à l'heure. C'est vrai que sur le Ulule, ça envoie pas mal. Hein. C'est, à mon avis, ça a dû aider à mobiliser la base de fans également.
Bah absolument, c'est vrai que d'avoir toutes ces illustrations, ça permet d'asseoir l'univers. Et du coup, les gens tout de suite, ils savent dans quoi ils se lancent. Quoi.
On voit régulièrement des projets qui se lancent, de jeux ou de films, etc. Puis ils disent, voilà, on a mis des dessins, des brouillons, etc. C'est pas top fini. Puis quand on aura le financement, ça sera... Non, là, le financement n'était pas encore. Vous allez chercher le financement participatif, mais tout était déjà de qualité pro, quoi.
Donc, vas-y, excuse-moi.
Non, je disais, c'est hyper important pour nous qu'on soit 100% confiant dans le projet. Enfin, surtout visuellement pour moi, en tant que graphiste de formation, je peux pas me permettre de mettre mon nom sur quelque chose où je peux pas être fier, quoi.
Surtout que maintenant, t'as beaucoup de Ulule, Kickstarter et autres. Et donc, si tu ne fais pas un projet hyper abouti, on met les coronets sur la table et on dit voilà, c'est ça qu'on fait et on le fera, point. Et d'ailleurs, on a tout ce qu'il faut, il nous reste plus qu'à l'envoyer, à l'édition ou voilà, et sinon ça bacra jamais, quoi.
C'est exactement ça. Ouais. Tu me coupes l'arbre sur le pied, c'est ce que j'allais dire. C'est aujourd'hui, il y a telle compétition, il y a tellement de monde, tout le monde, enfin, il y a des jeux qui sortent toutes les semaines, tous les jours. Il y a des univers, enfin, alors ils se valent pas tous, mais t'as des univers qui sortent toutes les semaines. Si toi tu viens avec des bouts de papier et dire voilà, c'est ça que j'ai, ça va être cool.
Alors, j'ai le nom d'un personnage et ça sera un sorcier ou peut-être on sait pas encore, mais ça sera bien.
Les poches des bagages sont pas
j'ai aucun doute qu'il y a plein de beaux projets qui passent à la trappe à cause de ça, alors qu'à la base il y a peut-être une très belle mécanique de jeu ou un truc très bien, mais c'est aussi une façon de faire la différence, c'est d'arriver. Les gens aujourd'hui, ils ont tellement le choix que forcément la première chose qu'on voit c'est la, avant la musique, avant l'histoire, on voit des dessins, quoi. Si tu viens pas avec une belle page colorée qui fait rêver, À mon avis, c'est dur.
Je suppose que la campagne Ulule, elle s'est pas créée en deux semaines, quoi.
C'était une souffrance.
C'est un projet de longue haleine.
Et je suis sûr que c'est toujours pas fini.
Difficultés. Et puis, c'était pas simple. Parce qu'en plus, on n'a pas fait non plus une campagne. C'est pas démesuré, c'est compliqué. Faire adhérer des gens à une histoire qu'ils connaissent pas, c'est très très compliqué quand on voit. Enfin voilà, hein, tout le monde sait comment George Lucas a galéré pour vendre Star Wars, comment J.K. Rowling a traîné des années avant de vendre du Harry Potter. Alors on le sait, donc heureusement, sinon tu te suicides, tu te dis tout le monde s'en tape, c'est hallucinant, mais c'est aussi pour ça qu'on a créé que le jeu nous donne aussi du baume au cœur, parce que le jeu c'est une façon beaucoup plus directe d'être au contact des gens et d'avoir des retours. C'est quelque chose où les gens participent tout de suite. Ils ont pas besoin de, voilà. L'histoire, c'est plus dur dans le sens où on t'impose quelque chose, tu l'absorbes et truc. Le jeu, tu prends. Puis il faut dire aussi que le milieu geek, il est particulièrement sympa. Enfin, on a fait quasiment que des belles rencontres depuis que.
Oui, tout à fait. Ouais.
Donc du coup, c'est une façon aussi pour nous de faire découvrir le truc et on est très content que ce soit par le jeu. Si on est là ce soir, c'est grâce à ça.
C'est un peu ça.
Mais oui, parce que tu nous as payé une bière, mais
c'est vrai que sur tous les salons maintenant, il y a en général soit une section proto ou futur créateur, etc., ou créateur, ou au moins des tables pour que les gens viennent présenter leur projet, parce qu'il y en a beaucoup de gens qui essayent de faire leur jeu ou leur projet, etc. Et maintenant, les visiteurs ont une exigence. Avant, il y a quelques années, tu pouvais voir, c'était des trucs découpés au ciseau, imprimés sur une vieille imprimante en noir et blanc, où il n'y avait pas de dessin, mais il y avait le nom du personnage écrit, etc. Non, maintenant, il faut à tout prix que ce soit des cartes imprimées en couleur qui tiennent bien, des figurines 3D maintenant, des décors en 3D avec les imprimantes 3D, les gens sont plus difficiles.
Pour l'avoir testé, effectivement, lors d'un prototype, j'avais juste pour la fiche de score, j'avais pris la piste de score de Carcassonne, le jeu de plateau. Je m'étais dit, c'est bon, tout le reste du prototype est bon, les tuiles, enfin, tout était fait main. J'en avais vraiment chié deux protos sur le salon, etc. Je me dis, c'est bon, la piste de score, je prends le Carcassonne, je la place et on joue. Pratiquement chaque partie, le jeu est bien, mais faut arrêter de prendre la piste de score de Carcassonne. Il faudrait faire sa propre piste de score.
C'est logique parce que les gens, ils n'arrivent pas à se projeter finalement. Ah. Quand tu leur montres des petits bouts de carton, tu leur dis ouais, mais ce sera comme ça. Les gens, s'ils ne le voient pas, qu'ils ne le touchent pas, ils ne peuvent pas le savoir.
Tu vois, ils ont vu que tu as investi. investis peut-être de l'argent dans du matériel ou du temps dans le fait concevoir, de faire appel à un graphiste dès le début du projet pour créer des illustrations, parce que toi, tu ne sais pas dessiner ou faire la musique ou même écrire et corriger tes fautes, ça, c'est important. Quoi.
Après, ça dépend l'étape où en est ton proto, parce que si tu n'en es qu'au début, peu importe que les gens adhèrent ou non, ce qui est important, c'est de tester ta technique. Enfin,
dans ces cas-là, tu le fais avec tes amis et tes potes. Tu vas pas dans
un
salon.
Il y en a peut-être qui n'ont pas d'amis, Reynald.
Pourquoi tu me regardes encore
à Cannes, au New Off de Cannes, on a encore vu des gens avec des bouts de carton et des bouts de bois.
C'est sympathique.
Ils se font snobber.
Le jeu est très bon.
C'est moche, mais ils se font snobber.
Au moins, il y a de la place pour s'asseoir là-bas.
De moins en moins.
Ça
recale comme en boîte de nuit. À 2h30, au New Off, tu rentres plus.
Ah oui, c'est terrible. Ah oui,
tu fais la queue.
C'est impressionnant. Si le jeu est très bon, alors si c'est un jeu absolument génial, oui, effectivement, il peut être moche avec des fautes d'orthographe, si le concept est génial, mais avec les 1000 jeux ou plus qui sortent chaque année, trouver une idée vraiment géniale, c'est
évident. Faut attirer l'œil du visiteur lambda qui passe par ta table et qui s'arrête, et tu peux attraper, comme au marché, tu fais allez, belle ma tomate, et hop, tu achètes.
Ou alors avoir un très grand nom, c'est sûr que si t'as Richard Garfield qui arrive et puis qu'il a deux, trois cartes écrites avec des fautes d'orthographe et des taches d'encre, les gens vont regarder quand même son jeu, je crois.
C'est sûr.
Après, t'attends toujours qu'il y ait un producteur qui passe devant ta table et qui te dise « Ah, t'as l'idée du siècle, je la prends sous mes bras », mais ça n'arrive pas souvent.
Faut aller les chercher.
Alors, pour les gens qui vous ont raté au Hammer Time parce qu'ils sont pas venus, alors qu'ils n'ont pas l'excuse du beau temps parce qu'il faisait un temps pourri, donc il faisait beaucoup plus chaud dans le Hammer Time, que où est-ce qu'ils pourront vous rencontrer prochainement, dans le futur, etc.
Eh bien, prochainement, on va être à Paris Ludique au plus tard. Donc Paris Ludique, c'est quelle date,
Elias? 29 et 30 juin.
29 et 30 juin. Donc on sera là en force, c'est-à-dire qu'il y aura absolument toute la team, vu qu'on est de région parisienne, donc c'est plutôt facile. Donc on sera là. Ensuite, on va être à Parthenay. À Parthenay, je sais plus exactement quand c'est. Je crois que c'est au mois de juillet.
C'est le 11 et 12 ou 10 et 11 ça dure, juillet. Nous personnellement.
Ah oui, c'est vrai que nous on sera pas là sur toute la durée. On sera là le lundi, le mardi, je crois.
Le flic, ça dure une semaine, voire une semaine et demie.
Non, c'est 4 jours, 3 semaines.
C'est 3 semaines. Oui, c'est pratiquement 3 semaines.
Parce que c'est dans les rues.
Et la ville de Parthenay devient... c'est énorme.
Après,
c'est une espèce de kermesse géante.
Après, on sera à Bruxelles.
Ah, Bruxelles.
Fin août.
Donc, on se reverra sûrement là-bas aussi.
Ça, c'est super.
Avec grand plaisir.
Et on sera à Orléans, pour Orléans joue, début septembre. Et d'autres dates à venir. Je crois qu'il y a Alençon, il y a Octogone.
Octogone sûr. Et même plus que ça, c'est-à-dire que ça, c'est juste les festivals. C'est que nous, on se déplace aussi, on va dans les clubs de jeux. On a une invitation au mois d'avril pour aller à Colmar. Des gens qui avaient beaucoup aimé le jeu quand on l'avait présenté au Off à Cannes.
Les cafés jeux.
Exactement. On fait la tournée à Paris. Genre, on a au moins, en moyenne, généralement, on a deux dates par semaine sur Paris où on propose le jeu. Ah non, ça heureusement qu'on a une équipe, parce que tout seul, ce serait improbable, quoi.
Il faut de la présence, quoi. Il faut que les gens. Il y a tellement de choses que si tu vas pas aux gens, les gens viendront pas à toi, quoi. Donc, et puis, je vous cache pas qu'on a été galvanisé par l'accueil qu'on a eu à Cannes. En fait, sans Cannes, on aurait été beaucoup plus timide. Mais vu comment ça s'est bien passé à Cannes, on s'est dit en fait, il faut juste y aller, quoi. Maintenant qu'on a eu des signaux hyper positifs, c'est maintenant, quoi. C'est pour ça qu'on est partout.
Alors, nous au Dôme, on a été au salon ce samedi, à Hammer Time, qui est organisé par la Forge Ludique. Donc, on a croisé tous les t-shirts orange.
Allez écouter l'émission de la semaine dernière, vous saurez tout.
Voilà, sur le site anotherpodcast.fr. Alors, samedi, c'était plutôt calme. C'était beaucoup rempli de joueurs qui s'étaient inscrits, qui étaient plus ou moins familiers à ce type d'événement.
Il y avait des ateliers. Il fallait refaire sa place. Nous, on était invités, mais il y avait des ateliers de peinture, il y avait des concours, il y avait des tournois, etc. Donc là, c'est ce qu'ils avaient appelé le off qui se déroulait dans la journée du samedi.
Et dimanche, donc Reynald, tu as rejoint l'aventure et comme d'habitude, tu y vas avec le thermomètre. Alors, quelle était la température?
J'ai sondé pas mal de tables. Ouais, mais effectivement, c'était ce qui est bien. En plus, bon, là, c'était leur première année.
Exactement, c'est impressionnant.
Voilà,
c'est
ce première année, l'organisation excellente.
On a
bonne
vraiment
ambiance.
Pas cru que c'est un premier festival organisé par eux. Alors, j'imagine que comme nous, ils ont participé au festival, donc ils ont un petit peu de retour et d'expérience.
Puis dans leur association, il y a des vieux de la vieille, du monde ludique aussi, donc ça aide pas mal. Mais en plus, pour une première année, très bonne organisation et excellent aussi parce que c'est tu respires dans ce salon. En fait, tu peux aller visiter les tables, tu peux te poser, tu peux questionner. Tu as toujours quelqu'un avec qui parler d'un
jeu. Tu trouves des tables pour jouer.
Tu trouves des tables pour jouer. T'es pas obligé de jouer des coudes pour avancer d'un mètre. Enfin, c'est un salon comme on aimerait en avoir tout le temps, en fait. Comparé à Ludinor dont on parlait la dernière fois, c'est... Non.
Faut juste ouais. Bien garder ta carte bleue au fond de ton sac.
Ah oui.
Sinon, tu vas avoir mal.
Surtout que les animateurs peuvent prendre le temps avec toi de t'expliquer le jeu, rigoler avec toi. Ça te donne envie. Franchement, ça donne envie.
On a vu des personnes avoir des cours particuliers pour faire de la sculpture de figurines.
Sculpture de peinture.
Il y avait même le YouTuber qui tournait en live comme ça.
Exactement,
et qui peignait une armée complète.
Challenge, une journée entière pour peindre une armée.
Mais la Forge Ludique, apparemment, c'est une association qui est très jeune, c'est ça?
Elle a qu'un an.
Ouais,
vraiment, on n'a pas l'impression. Alors, eux, ils n'ont pas. Ça fait des années comme nous qu'ils jouent, mais la Forge Ludique s'est créée à un an. Et un an après, un festival déjà réussi comme ça. Félicitations à eux. Vivement l'année prochaine.
Le centre de Lille en plus.
Je crois que nos invités ont été enchantés aussi de venir.
Un accueil particulièrement chaleureux et d'une sympathie vraiment exceptionnelle. Nous, on veut revenir absolument tous les ans. on s'est fait des copains, quoi. C'était vraiment top. En plus, sur la même longueur d'onde et tout, sur les jeux et tout ça, même vision sur pas mal de trucs. Donc, nous, c'était un véritable plaisir d'être venus. On ne regrette vraiment pas le déplacement.
Alors, vous êtes venu pour présenter le jeu de plateau qui est issu de l'univers de d'Arakan, qui est un jeu de plateau qui se colle bien justement à cet univers puisqu'il est très stratégique. On fait un peu un wargame avec des cartes.
Exactement. Enfin, un jeu de cartes. Tu dis jeu de plateau, c'est un jeu de cartes. C'est difficile maintenant de faire les nuances entre les différents jeux.
Alors, c'est très très intéressant. En effet, c'est quand on le présente en festival, on ramène toujours le plateau parce que comme on reparlait tout à l'heure, faut avoir un petit effet waouh quand on se ramène à un festival pour que les gens ils soient attirés justement, qu'ils viennent à ta table. Nous, le jeu, il est pas du tout obligatoire d'avoir le plateau, c'est-à-dire que le plateau c'est vraiment pour être dans l'univers quoi. Ça c'est une fonction ergonomique et esthétique, mais on peut jouer exclusivement avec les cartes, c'est-à-dire que si on est en voyage, en déplacement, on peut prendre son deck avec soi, on peut aller jouer sur une table de café qui n'est pas spécialement adaptée.
Ça fait une bonne jauge pour un jeu, c'est est-ce qu'on peut jouer sur une table de café?
Parce que moi je me souviens quand on a passé tout 2018 à tester le jeu, on testait ça sur tout et n'importe quoi. Quand je jouais par exemple avec Lies, on était sur son buffet dans la cuisine, enfin c'est un 20 cm sur 40 cm, le plateau il rentre pas, hein. On était obligé de jouer par terre. Donc il y a cette vocation pop aussi de pouvoir jouer n'importe où.
Donc un plateau avec illimité bientôt alors. Parce que nous on s'était coltiné aux barrières, mais on aurait pu aller plus loin si on voulait alors.
Absolument, le plateau ça ouvre une nouvelle dimension pour le jeu justement. C'est que là actuellement le plateau il y a les cases, comme ça on sait où mettre les cartes, mais on est en train de développer des plateaux qui auront une fonction plus dynamique avec le jeu en fait. C'est-à-dire genre à certains endroits il y aura des effets particuliers, on pourra interagir donc avec le plateau et surtout aussi en développer différent.
Explique un petit peu ce que c'est ce mystérieux jeu de cartes qui se déroule dans l'univers d'Arakan.
J'ai fait exprès de pas y jouer pour être le mec un peu du style je connais pas, je veux qu'on m'explique et découvrir et faire des waouh à chaque fin de phrase.
En fait,
et là j'attends, tu vois.
J'ai rien bossé, je sais pas pourquoi je suis là. Mais...
bah non, j'ai fait exprès. Vous y avez joué.
Tu
donc
fais le Candide.
Voilà, pour une fois que je peux jouer le Candide, merde.
On a fait même deux parties avec Dominique.
Oui, parce que la première était très très courte. Un peu trop courte à mon goût. En fait, le principe, c'est qu'on a tous les deux un paquet de cartes. Dans ce paquet de cartes, il y a des créatures, il y a des sorts, etc. Et on va poser ces cartes. On ne pose que deux cartes par tour, ça c'est frustrant.
Ah, bah bien sûr,
c'est très
bien
frustrant.
Sûr.
On va poser des cartes à tour de rôle et on va les retourner en même temps. Et c'est des créatures qui vont se taper dessus. Quoi. C'est Arakan Wars, hein. C'est pas Arakan Cuisine ou Arakan Tricot. Hein. C'est Arakan Wars. Et le but, c'est qu'à la fin de 10 tours, c'est ça?
Tout à fait. Ouais.
Et on vérifie qui est encore sur le poteau. On compte les morts, enfin, on compte les points, on compte les vivants plutôt.
Oui, c'est ça, c'est une sorte de Battle Royale. En fait, donc une des particularités de notre jeu, en fait, c'est que les cartes, elles interagissent par leur bord adjacent, ce qui fait que ça déplaît pas du tout au jeu de plateau et de figurines, d'où notre présence au Hammer Time. Parce que si on était juste un jeu de cartes à la Magic, je pense qu'on n'aurait pas eu notre place.
Non.
Et du coup, en fait, c'est vraiment genre la fusion de mes deux amours d'adolescence qui étaient au Hammer et Magic.
C'est vraiment ça.
Alors oui. C'est justement sur ce plateau, on va avoir des mouvements qui vont être très importants. Il va être très important de placer sa carte.
Une fois qu'une carte est posée, à part si c'est une créature qui vole par exemple, mais elle ne bougera plus et donc c'est très frustrant.
Oui, mais généralement ça bouge beaucoup. Oui. On se retrouve, la partie peut changer d'un tour à l'autre si les unités se déplacent. C'est très stratégique.
J'étais très content d'avoir posé une créature très très chère et très très puissante au milieu. Puis au bout d'un tour, elle s'est retrouvée, elle regardait les autres se battre au loin. Alors, venez me taper dessus. Non.
Petite précision, apparemment, Dom, tu disais on a un paquet de cartes, mais c'est un paquet de cartes qu'on peut éventuellement construire soi-même. Le but du jeu sera là à terme, je pense.
Tout à fait. Alors donc du coup, nous on a une constante de deck building qui se fait genre avant la partie, contrairement aux autres jeux de deck building qui se font pendant la partie. Donc nous, une autre de nos particularités pour le jeu, c'est qu'on a une valeur de points qu'on ne peut pas dépasser. C'est-à-dire que chaque carte a une valeur qui lui est attribuée, qui est une sorte de prix. Donc un petit peu comme sur le phénomène Warhammer par rapport aux valeurs, aux points d'armée.
Quand on constitue son armée, exactement. Avec ton pote, allez, on va se taper dessus, on donne 1000 points.
1000 points, 2000 points.
Recrute.
Et du coup, en fait, ça a la pertinence que les decks sont un minimum équilibrés, en fait. Et du coup, nous, comment on compte le proposer, sûrement quand on le commercialisera, c'est qu'il y aura, t'achèteras une boîte avec les quatre couleurs, par exemple, avec 25 cartes ready to play, genre tu peux jouer tout de suite. Et pour ceux qui sont très fans, ils pourront acheter des extensions et construire leur deck. Et donc, du coup, il faudra toujours que ça se fasse 25 cartes, maximum 135 points, pour si on reste sur 10 runes, parce qu'on est encore au stade de proto, et tout peut changer par rapport à certaines valeurs de ce style. Mais donc, oui, il y aura une véritable volonté de recherche, de créer les combinaisons les plus fourbes, quelque chose de véritablement créatif, quoi.
Alors, quelque chose qu'il faut préciser peut-être tout de suite, ce jeu de cartes est en forte relation avec l'univers, notamment de 1, parce que ça parle de l'univers, on y retrouvera les créatures et peut-être les personnages et plein d'autres choses. Mais il y a apparemment aussi un jeu de cartes dans l'histoire d'Arakan.
Ouais, attention, ouais, donc, spoiler, là.
Un peu comme Final Fantasy où t'as le jeu de cartes dans le jeu vidéo du
Triple et que tu peux y jouer. Oui, voilà, tout à fait, ouais. Un grand jeu d'ailleurs.
Je sais plus si c'est le 8 ou le.
Dans The Witcher aussi.
C'est dans FF8, ouais, c'est ça.
Witcher et Gwent, ouais.
Ah ouais, c'est le petit truc sympa, c'est de savoir que, voilà, dans Arakan, on a des gros soucis de perpétuation de l'histoire, de perpétuation de la légende. Et. On n'a rien trouvé de mieux que de jouer aux cartes pour subtilement faire passer des messages et faire en sorte que tout continue et que certains anciens enseignements ne soient pas oubliés. Et l'idée, c'est de dire, bah, tout comme Arakan, on refait la légende, on rejoue la légende.
D'accord.
Ça part de là.
Comment ça se traduit donc dans le jeu quand on joue nous physiquement, c'est que en fait on incarne les cartes incarnent des personnages clés de l'histoire et aussi parce que nous on a plusieurs couleurs de deck, les couleurs représentent des provinces qui sont dans le monde d'Arakan et donc du coup les spécificités de ces provinces se traduisent en gameplay dans le jeu.
D'accord. Donc il y a quatre provinces, c'est bien ça?
Alors, à l'heure actuelle, on a quatre couleurs.
Dans
Arakan, il y a sept provinces, hein, c'est bien ça.
C'est ça.
Et du coup, à l'avenir, il y a des provinces qui vont bien sûr se rajouter.
D'accord. Donc là, nous, on avait testé. Donc il y a les rouges et les bleus. Donc.
Alors, les rouges, c'est la province de Mirkor. C'est les bourrins. ils sont un petit peu agressifs.
Légèrement.
Oui, ça va. C'est juste, les seules choses que tu peux faire, c'est rajouter de l'attaque à tes personnages, mais pas de défense. C'est bizarre.
Mais c'est pour ça qu'il y a les extensions, et donc du coup, tu pourras customiser ton deck.
Non.
Imbattable
si je prends les rouges, c'est pas de défense.
Tu vas tout droit. Quoi. Justement, sur les cartes, on parle de cartes avec donc, des créatures qui se tapent dessus, mais est-ce qu'il y a un système, parce que comme je dis, moi, j'ai pas testé le jeu, donc je découvre, comme les auditeurs, est-ce qu'il y a un système, par exemple, une carte et un héros, ou c'est une créature lambda? Quand tu construis ton deck, est-ce que tu peux construire, comme on parle de Warhammer, X héros maximum et après au minimum 50% d'unités de base dans ton armée, enfin, ou est-ce que c'est que des créatures et tu fais ton deck comme ça et après tu joues?
Alors donc, on a une volonté de laisser le maximum de liberté pour la création du deck, sachant que le plus important, c'est que les gens s'amusent. Et que si on trouve des anomalies, de toute façon, on les corrigera. Et c'est vrai que pour l'instant, à l'étude, on pense qu'il y a une certaine sagesse à constituer peut-être des schémas d'armée, ou en tout cas des choses à ne pas dépasser. Un petit peu comme Magic, ils avaient fait, t'as pas le droit à plus de 5 fois la même carte, peut-être des choses un peu dans ce style.
C'est-à-dire que François, quand il fait ça, se fera son deck bleu, c'est ça, tu pourras mettre autant de pingouins que tu veux dans ton deck.
C'est horrible, c'est pas...
T'avais pas aimé les pingouins.
Ah, oui, mais t'es 24 pingouins te permettront d'avoir une carte qui vaut 100.
Voilà,
qui te fait gagner la partie.
24 pingouins, un peu très très faibles, et un super pingouin imbattable.
Exactement.
Et moi, je suis le seul.
Faut juste le piocher.
Pour les auditeurs, je vous inquiétez pas, je suis comme vous. Tout le monde sait de quoi parle un pingouin, mais moi non. Vous avez...
c'est tout simplement une unité qui coûte 1. Donc, comme au début, ton deck, tu vas choisir tes unités. Bon, là, c'était des decks préfaits pour qu'on puisse jouer. Je pense que si une boîte qui sort, ça sera pareil. On aura un deck prêt à jouer. Mais si t'as envie de construire toi-même ton deck et que tu veux prendre le super héros mais qui est super cher, tu vas devoir remplir de pingouins histoire d'avoir assez de cartes.
Pour pas sauf que
il mériterait. Ce qui est très dans ce jeu, c'est que tu joues que deux cartes. Donc si t'as que des pingouins, tu joues deux pauvres pingouins et puis après t'attends quoi.
Des pingouins, oui, mais des pingouins nihilistes. C'est ça toute la différence.
Il faut préciser.
Et je tiens également à préciser qu'il a encore été une fois de plus la star du festival. Tout le monde a kiffé le pingouin Félix.
Toutes les conversations tournent autour du pingouin Nihiliste.
C'est ça. Le pingouin Nihiliste, donc c'est les cartes bleues, c'est la faction des Terres Blanches.
C'est ça. Et certains joueurs, après une ou deux parties, nous disent souvent, ça y est, j'ai compris à quoi servent les pingouins nihilistes. C'est une tuerie.
Ouais, c'est justement très tactique à jouer. Mais je sens que dans un ou deux ans, on aura des mascottes du pingouin nihiliste, des nounours pour les enfants.
Absolument. Des courts-métrages sur le pingouin nihiliste.
Sur Ulu ou Kickstarter, tu vas dire, voilà, j'ai débloqué, j'ai donné 10€ de plus, mais j'ai droit à la peluche en plus du jeu, ça va être cool.
La faction bleue, donc, c'est la faction très défense, contrairement au rouge, mais dont il faut se méfier. Et il y a la faction vert, la province du Vestour, je prononce bien, c'est ça?
C'est exact.
Donc là, c'est vraiment c'est les hippies.
C'est plus les rôdeurs.
Oui, c'est un petit peu, c'est un peuple de la forêt, donc c'est tous les habitants de la forêt, donc on peut retrouver des monstres, on peut retrouver les enfants de l'arbre de vie, qui sont des assimilés elfes, on va dire. Donc c'est un bestiaire qui est relativement divers, étant donné que là, dans la version qu'on vous a proposée au Hammer Time, on a à peu près, 15% des cartes que nous, on a à l'étude actuellement.
Pas mal.
Ouais.
Et la de dernière façon, province. Il faut le faire tourner équilibré à mort, plein de parties.
Absolument.
La dernière province, c'est les gris, c'est la province du berceau. Bon, c'est les humains, donc. C'est les humains, quoi. Il faut un peu de tout, ils s'adaptent, normalement.
Voilà, mais efficace.
Ouais, ok, oui, efficace, on a vu.
Alors, tu parlais tout à l'heure que il y a déjà beaucoup de cartes en étude. Est-ce que ça va être comme à la Magic où on risque d'acheter des paquets pour avoir des cartes uniques ou tout le monde achètera une extension? Est-ce que vous avez déjà des idées là-dessus ou...
En termes de commercialisation, on n'est pas sûr à 100% de ce qu'on va faire, mais c'est vrai qu'un truc qui nous intéresse, c'est d'avoir une espèce de mélange entre Games Workshop et Magic, un petit peu, c'est un peu l'ADN du projet, du jeu des fois. C'est genre les extensions, pour nous, faut que les gens savent ce qu'ils achètent, ce qu'on appelle extension, ça va être genre les boosters, les différents paquets de cartes qu'on pourra acheter, mais ce sera toujours, ok, ça je sais que je vais avoir 5 loups de ceci, un paladin de machin, c'est comme ça. Les gens ils pourront constituer leur propre deck qu'ils voudront plutôt que genre d'acheter genre 500 000 boosters et pour avoir la carte qu'ils voulaient quoi.
J'ai une idée stupide qui vient de me traverser l'esprit toujours qu'on prépare l'émission. Tu parles de mélanger Warhammer et Magic. Warhammer ils vendent des figurines qu'on peint. T'as envie de faire des cartes qu'on peint.
Cartes à dessiner.
Vaste programme.
Mais c'est pour parler parce que les illustrations des cartes, c'est qui en est responsable, voilà.
Donc
elles
du coup,
sont toutes illustrées. Enfin, je donne moi c'est ça.
Alors là, les cartes qu'on a encore en mode prototype, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'illustrations qui sont en libre de droit. Donc on est en cours de réalisation et de production de toutes les illustrations. Donc des illustrations qui vont servir pour l'histoire, parce qu'on va retrouver les personnages de l'histoire dans le jeu. Et donc là, on se fixe peut-être quelque chose aux alentours d'une centaine de cartes différentes, donc centaines d'illustrations différentes pour peut-être la V1. Ouais.
Et donc, de rien sortir, prévoir une extension ou même une nouvelle faction, un nouveau peuble, etc. Ça emmène aussi créer des illustrations, même si les illustrations peuvent déjà exister en partie pour l'univers. Quoi.
Ouais, déjà, si tu fais 4 factions dans la boîte de base, dont 25 cartes, t'es obligé de faire 100 illustrations différentes, sans compter les illustrations,
les règles, les boîtes, petites icônes, etc.
Tout à fait, ouais.
On va revenir sur l'univers d'Arakan plus en général. Je vous propose, puisque sur le Ulule, on a donc trois livres audio qui seront en production, c'est ça ? Trois mini-albums ? Qu'est-ce qu'un mini-album de musique, c'est ça ?
Un mini-album, c'est vraiment la musique tirée de l'histoire elle-même. C'est vraiment comme une BO de film. Alors qu'on n'a pas tous les morceaux type chanson classique, c'est vraiment les morceaux extraits de ce qu'on entend dans l'histoire.
Pour faire, si quelqu'un veut illustrer sa partie de jeu de rôle ou je sais pas quoi, c'est parfait.
Mini-album parce qu'on a tiré les meilleurs extraits de chaque livre. On n'a pas tout mis non plus.
En vue qu'on arrive à la fin de l'émission, je vous propose rapidement d'écouter un petit extrait encore de l'audiobook, La légende de Oral d'Arakan, c'est ça ?
C'est ça, La légende d'Oral d'Arakan.
Cela faisait maintenant plusieurs heures qu'il pataugeait dans ses lieux. À chaque pas sur des racines noyées dans l'eau saumâtre. Il n'avait pas la moindre idée d'où ils allaient. Elias était à bout de nerfs.
J'en peux plus. On s'enfonce dans la boue. On est trempé jusqu'aux os. Faisons demi-tour et retrouve. J'aime pas cet endroit.
Hé, commence par parler moins fort. Tu vas nous attirer des ennuis.
Des ennuis ? Moi ? Je te signale que c'est toi qui m'as traîné jusqu'ici.
On n'a plus le choix. Il faut continuer.
Mais pour aller où ?
Je ne quitterai pas cette forêt sans avoir trouvé Dame Trude.
L'arbre de vie imagina Arakan en 7 grandes provinces. Après plusieurs millénaires de dur labeur, les terres d'Arakan étaient fin prêtes à accueillir ses futurs habitants. L'arbre de vie créa d'abord une faune primitive, puis donna vie à 7 grands peuples qui, au fur et à mesure, devraient coloniser chacune des 7 provinces. Sa première création fut le peuple des bois, à qui il offrit le grand domaine forestier de l'Ouest. Suite à cela, il imagina d'autres races, toutes plus différentes les unes que les autres. L'arbre de vie était animé par le désir vaniteux de créer une forme de vie supérieure à toutes les autres. Une espèce parfaite. Il se lança alors dans son plus ambitieux chantier, la création du peuple des hommes. Il délaissa alors peu à peu Arakan, préférant se concentrer sur son nouvel ouvrage. Profitant de ce moment d'inattention, le diable lança sur Arakan des centaines d'émissaires qui semèrent le trouble et le chaos. L'arbre de vie, déjà affaibli par son travail acharné, dut puiser dans ses dernières ressources pour riposter contre cette attaque sournoise. Il finit néanmoins par sortir victorieux de cet affrontement. Terriblement diminué, l'arbre avait pourtant préservé l'essentiel. Les hommes, qu'il allait considérer comme sa plus belle réussite, étaient finalement nés. Mais ce qui fut sa plus grande fierté allait devenir sa plus grande déception.
Le monde d'Arakan avec l'audiobook. Donc, je vous rappelle, hein, n'hésitez pas à aller sur le site Arakan, donc ARAKHAN.com.
Pour
t'as failli faire beaucoup de trip, mais non.
ARA, c'est cash. C'est fini. Allez, hop, c'est fini. On abandonne.
ARAKHAN. N.
Voilà.
Maintenant, tu fais un modus.
Il y aura les liens sur notre site, sur notre Facebook, etc.
Donc vous allez pouvoir y retrouver des extraits de l'audiobook. Est-ce qu'on peut encore participer à Ulule ou la campagne est complètement fermée ?
Non, là, pour l'instant, c'est fini. Il n'y a pas de late pledge, comme on dit chez les Kickstarter yens. On pas trop en dire, mais on prévoit de faire un autre. Financement participatif très rapidement, mais on vous tiendra informé sur nos réseaux.
Parce que là, pour l'instant,
concernant l'histoire,
ceux qui ont participé vont recevoir leur cadeau.
Ensuite,
ça sera disponible sur les différentes plateformes qu'on retrouvera sur le site. Et ensuite, la suite. Parce que là, les gens vont être accro.
La suite à la rentrée avec, comme on l'a dit tout à l'heure, ça bouillonne, ça foisonne d'idées. Donc, on traite les priorités.
On peut retrouver aussi sur le site et la chaîne YouTube le tutoriel pour le jeu, ce fameux jeu de cartes avec des explications en vidéo pour bien comprendre la mécanique pour les futures revanches.
Et voilà, donc des musiques, de l'audiofilm. Donc restez bien connectés, ça vous permettra d'en savoir un peu plus. Et je vous propose, allez, vu qu'on était parti, de se faire un troisième épisode, un petit extrait.
C'est parti.
La vaine tentative d'invasion du diable permit aux différents peuples d'Arakan de s'unir dans l'adversité. Ensemble, ils reconstruirent leurs provinces respectives. Arakan connut alors une période de paix où tous vénéraient l'arbre de vie, pour le plus grand plaisir de ce dernier. Ce tragique épisode finit peu à peu par s'estomper pour ne devenir qu'un vague souvenir. Mais de vieilles rancœurs et des tensions nouvelles entre les peuples firent surface. La prospérité fit place à la défiance, la quiétude à l'anxiété. Des jalousies éclatèrent. Certains estimaient que l'arbre de vie favorisait les hommes au détriment des anciens peuples. D'autres s'inquiétaient de voir leur habitat mourir. La forêt du Grand Ouest devenait un sombre marais et le désert de l'Est progressait dangereusement. Que faisait l'arbre de vie, le créateur et protecteur d'Arakan ? La communauté humaine, quant à elle, grandissait toujours plus. Ces terres pourtant réputées fertiles ne suffisaient plus à nourrir toute la population. Les hommes commencèrent alors à coloniser les provinces voisines. L'équilibre instauré par l'arbre de vie était rompu. Ce dernier, épuisé et malade, n'avait plus la force d'intervenir. Arakan glissait dangereusement dans la violence et la peur.
Alors voilà, si vous voulez suivre encore ces aventures de Tim et Elias, n'hésitez pas, l'aventure Arakan, avec le site web, le Facebook, le YouTube. Voilà, c'est comme nous, on peut rappeler hein, notre Facebook Heureusement en France, si vous voulez suivre l'actualité. Voilà, on partagera encore d'autres infos de la Forge Ludique.
Un petit mot justement sur les extraits qu'on va écouter, c'est des comédiens professionnels auxquels vous avez fait appel.
La plupart, les principaux sont des comédiens professionnels. Donc, on a Damien Hartmann, on a Jean-Philippe Caldas, on a Gaël Savary, qui bosse toujours sur de gros, gros projets. Ils ont bossé sur Harry Potter. Gaël Savary, la voix, je crois que c'est la voix de Marie-Alice, Desperate Housewife. Non, c'est des voix connues. C'est important aussi que les gens aient des repères.
Peut-être que les gens ont dit, mais j'ai entendu cette voix quelque part.
C'est super important, ça.
Voilà, merci beaucoup d'avoir participé avec nous à cette émission. On se retrouve pour notre part la semaine prochaine, dimanche 18h, 19h. Et on va se quitter avec l'intro de Arakan. Magnifique musique. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.
Merci, à plus.